Livre de la Genèse au chapitre 22, nous lirons les 14 premiers versets. Un texte que nous connaissons bien, qui préfigure le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire. Mais ce matin, nous allons l'aborder sous un angle quelque peu différent. Titre de la méditation est le suivant, la route du sacrifice. La route du sacrifice. Genèse, chapitre 22, c'est premier. On va lire à partir du verset 33 du chapitre 21, qui est juste au-dessus. « Abraham planta un tamaris à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. » Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Troisième jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. » Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et dit, « Mon père, » il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et y disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Ce texte, pour une personne qui le lirait pour la première fois, et peut-être est-ce votre cas, est terriblement choquant. Dieu qui demande à un homme d'offrir son fils en holocauste. Cela peut être une vision d'horreur, cela peut être quelque chose qui vous effraie, qui vous paraît totalement injuste, qui vous paraît terriblement violent. Mais ce texte n'a de valeur que lorsqu'on l'interprète au travers de la grâce. C'est l'image de Dieu qui va offrir son Fils unique, qui va offrir Jésus. Et si le bras d'Abraham a été retenu, si Dieu a dit à Abraham, non, stop, ne m'offre pas ton Fils, eh bien, à la croix du calvaire, il n'en a pas été ainsi. Dieu n'a pas retenu son bras, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, afin que nous ayons la vie et que nous soyons sauvés. Et dans ce texte, on voit cet homme, Abraham. Abraham est en train de vivre une heureuse retraite. Ça y est, les enfants sont là, il a tout ce qu'il veut, il a planté son tamaris qui lui fait de l'ombre pour la sieste, il s'est établi dans ce pays et il se dit, la promesse m'a été donnée, c'est bon, je suis tranquille. Et Abraham est un homme tout à fait remarquable, il a quitté son père, il a quitté sa mère, il a quitté sa patrie pour obéir à la voix de Dieu, au commandement de Dieu qui lui demandait de partir en vue d'obtenir une grande postérité. Ça a été le père fondateur de lui a été engendré le peuple de Dieu. Cet homme est là, il est tranquille. Il se dit, ça y est, je suis enfin bien. Puis longtemps après, nous dit le dernier verset du chapitre 21, longtemps après, Dieu va demander quelque chose d'un petit peu fou à Abraham. Et c'est sur cette dimension que j'aimerais que l'on s'arrête ce matin. Voyez-vous, parfois, il arrive à Dieu de nous mettre à l'épreuve. de la même manière qu'il va le faire à Abraham. Non pas pour le plaisir de nous faire souffrir, non pas pour le plaisir de nous embêter, de nous priver de quelque chose, mais tout simplement pour sonder l'état de notre cœur et pour nous révéler l'état de notre cœur. Et cette notion de révélation est double, parce que parfois nous pouvons être humiliés par notre réaction en disant « Seigneur, mais je pensais tellement t'aimer, je pensais être prêt à tout, un petit peu comme Pierre. Et puis finalement, alors que tu me demandes eh bien, de te sacrifier quelque chose, je t'ai dit tellement souvent que tu étais la priorité dans ma vie, je t'ai dit tellement souvent que tu étais le Dieu de mon salut, que je chercherais premièrement le royaume de Dieu et ta justice. Et puis, là tu me demandes de sacrifier une broutille, et j'en suis pas capable. J'ai honte, Seigneur. » Et là, on se retrouve tout d'un coup humilié en disant « Mais Seigneur, c'est pas possible, pardonne-moi. » Et puis, la deuxième branche, c'est par contre un petit peu comme Abraham, de se dire « Seigneur, tu m'as demandé ça, je l'ai fait, tu m'as donné ta joie. » Et ainsi, une certaine fierté, même si le mot est mal choisi, vous me comprenez, de dire « Finalement, Seigneur, je suis plus fort que ce que je croyais. Moi qui pensais être une branche bien faible, moi qui pensais être un homme bien fragile, moi qui pensais finalement mal t'aimer, eh bien Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force et tu m'as fait grandir. » Et c'est au travers de ces épreuves pratiques que Dieu nous fait passer, que nous jaugeons la qualité de notre foi, que nous mesurons la qualité de notre foi, qu'elle apparaît à nos yeux. Comment aimons-nous Dieu ? Abraham va être mis à l'épreuve par son Dieu, longtemps après, malgré toute la fidélité qu'il a eue dans son passé. Et dans un premier temps, j'aimerais aborder cette problématique de dire comment bien vivre les temps de sacrifice. Dieu nous demandera parfois, nous mettra à l'épreuve. Comment faire en sorte que ces temps de sacrifice ne soient pas des temps d'amertume ? Comment faire en sorte que ces temps de sacrifice ne soient pas des temps douloureux qui nous fassent souffrir longtemps, qui laissent des blessures dans notre vie ? Peut-être que parmi nous, un homme, une femme, un frère, une sœur, a sacrifié quelque chose pour Jésus. Mais il ne l'a pas fait dans la bonne mentalité, dans la bonne vision. Et de ce fait, il y a une blessure dans son cœur. Seigneur, je t'ai donné ma vie sentimentale. J'ai refusé de me mettre avec ce jeune homme, avec cette jeune fille. Maintenant, je suis seul. Et j'en souffre. Et j'en souffre. Et ce sacrifice, il nous pèse. Seigneur, je t'ai offert mon temps. J'ai mis ma famille sur l'autel. Et pourtant, regarde mes enfants. Regarde ci, regarde ça. Et dans notre cœur, il y a cette souffrance qui est là. Et pour bien vivre le sacrifice, il faut le faire, il faut le vivre de la manière dont Abraham l'a vécu. Et c'est ce que je me propose de vivre, de partager avec vous ce matin. Première chose que l'on remarque, c'est le moment du sacrifice. Comme je disais en introduction, la promesse était là. Hein. Abraham avait plus que sa retraite devant lui. Vous savez, à chaque moment de notre vie, Dieu peut redistribuer les cartes. Et j'aime la disponibilité d'Abraham, qui, dans ce texte, dira « Me voici » à trois reprises. Il dira « Me voici » lorsque Dieu l'interpelle, alors qu'il est en train de se reposer. Il dira « Me voici » à son fils Isaac, alors qu'il a une réponse plutôt difficile à lui donner. Et heureusement qu'il dira « Me voici » à Dieu, lorsque Dieu lui dira « Non, stop, n'égorge pas ton fils. » J'aime cette disponibilité d'Abraham, qui dira « Me voici ». Dites-moi, sommes-nous de ceux, de celles, qui sommes capables, dans notre tranquillité, qui sommes capables, dans notre routine chrétienne, d'être comme Abraham qui reconnaît encore la voix de Dieu, qui reste encore sensible à la voix de Dieu, dont le cœur est resté prêt à entendre la voix de Dieu, même si, eh bien, toute sa vie était bien ordonnée? Il était quand même à la disposition de son Dieu. Il voulait quand même encore entendre la voix de son Dieu. Et non seulement il l'entend, chose qui n'est pas toujours très simple, parce que dans notre tête, il y a toutes sortes de voix parfois qui résonnent. Il y a la voix de notre volonté qui est là et qui veut faire le contraire de ce que la voix de Dieu nous dit. Puis il y a toutes sortes de petites voix qui traînent, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'elles viennent. Non seulement il l'entend, mais il la reconnaît. Il reste disponible et il le fait sans condition. Moi, ça me bouleverse de me dire que nous sommes véritablement des sacrifices destinés à être sur l'autel 24 heures sur 24. L'apôtre Paul, dans Romains 12, dira que, eh bien, nous devons, il exhorte les Romains à offrir leur corps. À offrir leur corps. Sans notion de temps, sans notion de limite. À offrir leur corps comme des sacrifices saints, comme des sacrifices vivants. Ce qui sera de leur part quelque chose d'exceptionnel. On leur érigera une statue. Non. En grec, c'est le terme logikos qui est employé. Ce qui ne sera que de votre part que quelque chose de logique. Sommes-nous sur l'autel? Et j'aimerais aller plus profond. Avons-nous commencé à bâtir l'autel? Qu'est-ce qui est sur l'autel? Qu'ai-je mis sur l'autel? Deuxième chose qui me fait du bien dans ce texte et qui, à mon sens, doit nous aider à bien vivre le sacrifice, c'est que Dieu a conscience de la valeur du sacrifice. Tu vas m'offrir Isaac, ton unique, celui que tu aimes. C'est parole de Dieu que Dieu adresse à Abraham. Dieu sait, Dieu connaît l'amour qu'Abraham voue à Isaac. Dieu connaît la valeur du sacrifice qu'il demande à son serviteur. Celui que tu aimes, ton unique. Pourtant, il y a Ismaël. C'est étrange, ça. Il y a Ismaël. Mais Dieu connaissait la place particulière qu'Isaac pouvait avoir dans le cœur d'Abraham, parce que c'est de lui que la promesse viendrait. Celui que tu aimes. J'aime beaucoup l'attitude de David quand Dieu va lui demander à un certain moment de sa vie, il est roi, de lui offrir un sacrifice. Et pour ce faire, David a besoin d'un champ. Et il va aller voir cet homme, et cet homme, l'homme va dire à David, mais tu es roi, prends-le le champ, prends-le gratuitement. Et David de répondre à cet homme, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte pas. David sur l'autel, l'autel il ne veut pas le bâtir sur quelque chose qui ne lui a rien coûté. Mais Abraham, il entend, je pense, la voix de Dieu. Il lui dit, je sais ce que tu vas me sacrifier. Je sais ce que tu vas me donner. Tu vas me donner ton unique. Tu vas me donner celui que tu aimes. Tu vas me donner ce qui est le plus précieux à tes yeux. Mon frère, ma sœur, je voudrais graver ça dans votre cœur. Si les hommes n'ont pas conscience de ce que l'on peut sacrifier, si ton mari, ta femme, celui qui est assis à côté de toi, n'a pas conscience de ce que tu peux sacrifier, sache bien une chose, c'est que Dieu en a conscience. Dieu en connaît le prix. Dieu en connaît la valeur. Aux gens qui ont peur de louer en public, c'est impressionnant parce que vous êtes un auditoire impressionnant. Je dis souvent cette chose-là. Quand tu élèves ta voix, eh bien, fais-le comme un sacrifice. Et ton sacrifice a d'autant plus de valeur que, avec ce sacrifice, tu offres ta peur, tu offres ta crainte. C'est-à-dire que, pour nous qui écoutons une louange dans l'église, toutes les louanges ont la même valeur. Toutes les louanges nous font du bien. Moi, je me fais du bien quand j'écoute la louange de Stéphane, quand j'écoute la louange de Denise, je me fais du bien. Ça fait du bien à mon cœur. Amen. Waouh, ça me rassure. Mais aux yeux de Dieu, je pense que la louange de quelqu'un qui est timide a une valeur, a une saveur toute particulière. Parce qu'elle est parfumée de timidité. Elle est parfumée de crainte. Et avec l'expression du cœur, eh bien, on offre également eh bien, quelque chose de plus, quelque chose qui nous retient. Et notre sacrifice est d'autant plus beau. Pourtant, ces deux choses, deux je t'aime, peuvent avoir des poids quelque peu différents. On peut, parfois, se dire que ce que j'offre à Dieu, ça n'a aucun prix. On peut se dire, mais ça ne sert à rien que moi j'offre ça à Dieu. Ça ne sert à rien que je sacrifie ça pour Dieu. Ça n'a finalement pas de valeur ou ça n'aura pas de valeur aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu,
ça en a. Sacrifie-moi ton fils, sacrifie-moi ton unique. Dieu connaissait la valeur du sacrifice d'Abraham. Troisièmement, l'attitude d'Abraham, elle m'a toujours surprise et émerveillée. De bon matin, il va sceller l'âne et charger et tout préparer pour partir pour offrir son fils. J'avais déjà fait la réflexion il y a quelque temps, ici même. Mais vous imaginez, vous qui êtes parents, offrir votre fils, offrir votre fille, vous le feriez dès le matin? Moi, me connaissant, je traînerais. Je trouverais de la vaisselle à faire. Je trouverais une poussière à aspirer. J'aurais des courses. J'aurais une prédication à faire pour dans 3 mois, je crois. Non, Abraham, de bon matin, va le faire. Et j'aime cette spontanéité dans l'obéissance d'Abraham. Il ne va pas laisser dans son cœur s'installer le doute, s'installer les questions, s'installer les pourquoi. Mais, ben voilà, il va, peut-être a-t-il coupé le tamaris qu'il avait planté. Tout à l'heure, on a lu, il va planter un tamaris, etc. Le tamaris va pousser. Bon, c'est moi qui le dis, ça. Mais peut-être a-t-il coupé le tamaris qu'il a planté pour en faire le bois pour l'Holocauste. Et là, il va charger l'âne et puis il va partir avec son fils et ses serviteurs. Mon frère, ma sœur, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ne différons pas. Parfois, il peut y avoir des choses quelque peu douloureuses. On va le voir tout à l'heure. Mais mettons-nous en route dans notre cœur. Mettons-nous en route dans notre cœur. Parlons à Dieu, conversons avec lui, mais que, en définitive, eh bien, la réponse puisse être oui. Et comme le dira Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais je l'efforce mon cœur ce matin, et je le partage très librement avec vous. Dis oui au Seigneur. Dis oui au Seigneur pour ce qu'il te demande. Dans ton cœur, prends cette résolution. Marque-la au plus profond de toi. Oui, il y a un sacrifice à faire. Mais fais-le. Ensuite, il va préparer le sacrifice, etc. Il va suivre scrupuleusement les ordres de Dieu. Il va aller à l'endroit que Dieu lui a indiqué. Mais le chemin vers le sacrifice va durer 3 jours quand même. Au bout de 3 jours, il va enfin voir le mont Morija. Vous imaginez tout ce qui a pu se passer en 3 jours dans la tête d'Abraham? Si sa résolution n'avait pas été solide à la base, il aurait pu faire demi-tour, prendre des chemins de traverse. Mais dans son cœur, c'était ancré. Dans son cœur, c'était fort. Dans son cœur, c'était solide. Et nous le verrons, ce qui l'a motivé, ce qui l'a soutenu pendant toute cette marche. 3 jours. Entre la résolution et le sacrifice, il y a parfois du temps. Et je pense que ce temps est nécessaire pour calculer la dépense, pour affermir les choses, pour parler avec Dieu, afin que de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice ne viennent pas se mettre dans notre cœur. Car lorsque Dieu nous demande d'abandonner quelque chose, eh bien, je crois qu'il faut parler très librement avec lui. Dieu est dans le ciel, mais il nous entend, gloire à Dieu. Il connaît les choses et on peut avoir cette relation avec lui. On peut dire, Seigneur, je comprends pas, c'est pas juste. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Pourquoi tu ne demandes pas au voisin? Il est tellement moins bien que moi. Seigneur, je vais le faire quand même. Aide-moi. Travaille mon cœur. Tu vois, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça maintenant? Je pourrais le faire dans 10 ans. Je serais prêt à le faire à 10 ans. Dans 10 ans. Non. Je vais le faire maintenant. S'il te plaît, travaille dans mon cœur. Aide-moi, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à accomplir ta volonté, aide-moi à prendre les forces nécessaires. Et pendant ces 3 jours, je ne sais pas ce qu'a fait Abraham, mais dans sa tête, eh bien, il a dû repasser dans son cœur que Dieu avait toujours été fidèle avec lui. Il a dû repasser dans son cœur que les promesses de Dieu s'étaient toujours accomplies. Il a dû repasser dans son cœur que ce que Dieu lui avait dit, eh bien la main de Dieu l'avait accompli. Et ça devait être une lutte, ça devait être un conflit permanent. Mais finalement, c'est la volonté de Dieu qui a triomphé. Qu'en est-il dans ta vie? qu'en est-il dans ta vie? Il va voir le mont Morija et là il va dire à son serviteur, laisse-moi seul, reste là. Et il va partir seul avec Isaac. Le sacrifice se fait seul. On ne peut pas le faire en groupe. Ça fait penser à Jésus à Gethsémané. Hein. Ce lieu terrible. Aussi qu'il avait demandé Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Les trois se sont endormis. Et Jésus se retrouve seul. Gethsémané. Ce lieu terrible où chaque chrétien passera un jour. Vous savez qu'on aura tous nos Gethsémané. Gethsémané, je l'appelle souvent le lieu du choix. Le lieu où finalement la théorie devient la pratique. Jésus a toujours su qu'il devrait abandonner. Jésus a toujours su qu'il devrait céder à la volonté du Père. Jésus a toujours su qu'un jour c'était la croix qu'il attendait. Jésus l'a toujours su. Mais là, la chose devient concrète. Et il se met à prier le Père, 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 s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non, il chasse l'idée. Non pas ma volonté, mais la tienne. Des grumeaux s'en coulent. C'est le lieu où la volonté de Dieu et la volonté du Fils, pour la première fois, se confrontent. Jésus connaît la souffrance qu'il va devoir subir pour nous. Jésus connaît ce qui l'attend, connaît qu'il sera abandonné. Il le sait qu'il sera seul sur cette croix. Il est seul au moment de choisir. Il est seul sur la croix. Pourtant, il va le faire. Gethsémané. Abraham va vivre un petit Gethsémané. Voilà, j'y vais seul. Frère, ma sœur, on peut être accompagné pendant un temps. Mais durant une certaine... au moment du choix, au moment d'accomplir le sacrifice, on est seul. On est seul. Et alors on avance. Abraham avance. Puis Isaac va lui dire, mais Père, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que tu vas faire? Où est le sacrifice? Il a dû être embêté pendant un petit moment, Abraham. Dieu s'en occupe. Dieu pourvoira. Isaac pose pas plus de questions. Isaac, c'était pas un gamin de 5 ans. Hein. C'était un homme de 18-20 ans. Ils vont arriver en haut de l'autel. Il va se laisser attacher sur l'autel. Étonnant, ça. Le drame va avoir lieu. Mais qu'est-ce qui a tenu Abraham pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui a poussé Abraham pendant tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'Abraham, et la réponse elle nous est donnée dans le livre de l'Épître aux Hébreux, c'est que pendant tout ce temps, Abraham avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils des morts. Gloire à Dieu. Et lorsque je sacrifie quelque chose pour Dieu, oui, parfois ça me fait souffrir. Oui, parfois c'est difficile. Oui, parfois c'est un arrache-cœur. Oui, parfois, à court terme, je me dis que ça fait mal, que c'est pas juste, que c'est difficile. Mais j'ai la foi. Et je sais qu'au travers de cette obéissance, au travers de ce sacrifice, Jésus ressuscitera quelque chose dans ma vie. C'est tout ce qui me motive. C'est ce qui me motive. C'est ce qui me pousse. C'est ce qui va pousser Abraham. C'est ce qui va tenir Abraham. C'est que Dieu est fidèle. C'est que Dieu est fidèle. Et mes frères, mes sœurs, oui, le moment du sacrifice, on est seul pour l'accomplir. Oui, parfois, on est seul à en subir les conséquences. Mais béni soit le Seigneur, parce que celui qui le suit, celui qui lui obéit, eh bien, il doit avoir la vision que Jésus est le chef, que Jésus est le rémunérateur de notre foi, et que lorsque je m'engage avec lui, eh bien, il est l'auditeur silencieux. Il est celui qui marche à mes côtés. Il est celui qui me tient par la main. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Abraham va obéir. Et tout. Et nous. Et moi, je me mets dans le même panier que vous. Je me parle à moi-même. Que ferons-nous? Il ne s'agit pas d'offrir ses enfants. Ne nous trompons pas. Mais parfois, la voix de Dieu peut retentir dans notre cœur. Voilà, c'est le moment de t'engager avec moi, c'est le moment de te convertir. C'est le moment de répondre oui à l'appel que je te donne. C'est le moment de faire un pas avec moi. C'est le moment d'aller plus loin avec moi. C'est le moment d'affronter les géants qui sont devant toi. C'est le moment, c'est le temps. C'est le moment de renoncer à certaines choses, certaines saletés qu'il peut y avoir dans notre vie. C'est le moment de nous mettre sur l'autel, afin que ce soit brûlé, afin que ce soit consumé. C'est le moment d'offrir ta vie complète. Jusqu'à maintenant, tu n'avais donné que la moitié, tu n'avais donné que les trois quarts. Mais il y avait une partie que tu réservais pour toi. C'est le temps.
Oui, mais ça me fait peur.
Notre Dieu est capable de ressusciter les morts. Et ce que nous offrons aujourd'hui, eh bien nous ne retrouverons peut-être pas, mais nous retrouverons mieux, nous retrouverons différent. En sachant que bien des choses en nous, et je m'éloigne un petit peu, mais je crois que bien des choses en nous sont mortes parce que nous n'avons pas sacrifié et parce que nous n'avons pas donné. Regardez dans les évangiles, ce jeune homme riche qui va s'approcher de Jésus. « Maître, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Suis les commandements ? Facile, je le fais depuis ma jeunesse. » D'accord. Alors Jésus, je l'imagine, le regarder avec un petit sourire et lui dire « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Non pas que Jésus veuille que l'on se dépouille de tout, mais il savait que dans la vie de ce jeune homme, il y avait cet amour passionné pour les choses, pour l'argent, pour les biens qu'il possédait. Et ce jeune homme, les évangiles nous disent qu'il va repartir tout triste. Il a perdu plus en gardant qu'en sacrifiant. Il en a perdu plus en gardant pour lui qu'en mettant sur l'autel. Alors, il faut raison garder tout de même. Abraham a bien préparé le sacrifice. Et il ne s'agit pas de sacrifier tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'aller vivre dans les cavernes au fond de la Lozère. Bien que la Lozère soit un département tout à fait charmant et qu'il y ait des cabanes très confortables. Mais il faut poser les choses et avant notamment de faire des sacrifices qui parfois impliquent notre famille, il faut bien les poser devant le Seigneur. Demander conseil également afin de ne pas faire n'importe quoi et ainsi de se mettre en danger. Mais quand la chose est sûre dans notre cœur, eh bien, faisons cet acte de foi. Et ce qui est valable dans les grandes choses est également dans les petites. Vous savez, je crois que le Seigneur il nous demandera plus souvent de sacrifier des petites choses que des grandes. Et quand ce sera des grandes, eh bien là, la voix de Dieu se fera entendre de manière bien audible. Mais d'abord, peut-être y a-t-il un petit peu de ménage à faire dans les petites choses, dans notre caractère. Pas dans celui de notre femme, hein. Elle n'est pas là, je peux en parler, cool. Mais dans le nôtre. Et c'est également ça, sacrifier. Dire oui, Seigneur, je manque de patience. Je suis colérique. Je suis têtu. Allez. Je tire ça de ma vie. Seigneur, tu poses ta main. Abraham avait cette vision. Dieu est capable de ressusciter les morts. Tout au long du chemin du sacrifice. Et c'est là le fond de ma prédication. Tout au long du sacrifice. Tout au long du chemin du sacrifice. Gardons cette vision. Dieu est capable de ressusciter les morts. Dieu est capable de ressusciter les morts. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni.
En conclusion, on est à la retraite spirituelle ou pas?
Avec Jésus, on n'est jamais à la retraite spirituelle. Jamais. Et peut-être avons-nous parfois tendance à nous endormir un petit peu. Faisons attention, parce que Dieu serait bien capable de venir frapper à la porte de notre cœur et nous dire, allez, c'est le moment de voir encore ce qu'il y a dans ton cœur. Vivons l'épreuve ainsi parfois. Comme un révélateur de l'état de notre foi. Et vivons-la parfois avec fierté et parfois avec humiliation, comme nous l'avons vu. Deuxième chose qu'il faut bien marquer en nous, c'est que oui, la vie chrétienne nécessitera des sacrifices. Et je dirais même la vie tout court nécessitera des sacrifices. Et Abraham les a fait non seulement parce qu'il avait cette vision de la foi, mais également parce qu'il aimait son Dieu. mais également parce qu'il aimait son Dieu et qu'il avait connu la fidélité de Dieu. Agissons ainsi. Et mon frère, ma sœur, tu gagneras toujours à obéir à Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelle que soit la notion du sacrifice. Le Seigneur t'accompagnera. Il est puissant pour ressusciter les morts. Amen. Prions le Seigneur.